Je commençais cette émission par l'extrait d'un livre, de Jan Nowak qui s'appelle « Courrier de Varsovie ». Jan Nowak, c'était un émissaire de la résistance polonaise envoyé prendre les ordres du gouvernement polonais en exil et rendre compte de la situation de la Pologne occupée auprès des autorités britanniques. Je vous lis. Dans toutes ces rencontres, j'avais parlé de ma propre initiative, de l'extermination des Juifs et de la destruction du ghetto de Varsovie. Pareil génocide, l'assassinat de centaines de milliers de personnes comme du bétail à l'abattoir, n'avait pas de précédent, semblait-il, dans l'histoire. Tous m'avaient écouté avec intérêt, mais aussi avec une incrédulité qui ne m'avait pas échappé. 30 et quelques années plus tard, en feuilletant les notes et les rapports de mes interlocuteurs de l'époque, je remarquais avec étonnement que la question des Juifs en avait été totalement écartée. Mon prédécesseur, l'émissaire Jan Karski, avait fait la même expérience lorsqu'il était arrivé à Londres un an plus tôt, porteur d'une somme considérable sur le sort des Juifs. Karski était allé loin. Avant de partir, il avait risqué sa vie en se faisant passer pour un policier estonien afin de pénétrer dans le camp de la mort de Białowieża et d'y voir de ses propres yeux quel était réellement le sort des Juifs emprisonnés là-bas. Je savais par Jan Karski lui-même qu'il avait profité d'une audience chez Eden pour parler en détail de l'extermination systématique et progressive de la population juive. Le secrétaire d'État britannique avait estimé cet entretien suffisamment important pour en communiquer le compte-rendu à tous les membres du cabinet de guerre britannique. Je le retrouvais dans les archives et je constatais avec étonnement que rien de ce que Karski avait déclaré concernant la liquidation des Juifs n'y figurait. Pourquoi ? Fin de citation, et c'est pour tenter de comprendre ce qu'a pu ressentir cet émissaire polonais face à la surdité des puissances alliées que Yannick Enel a écrit ce texte magnifique qui s'appelle Jan Karski et il est ce soir notre invité.
Ce texte paru chez Gallimard à ses côtés, aux côtés de Yannick Enel, Georges Bensoussan, historien, directeur de la revue du Mémorial de la Shoah, et à ses côtés Jean-Yves Potel, qui est politologue, l'ancien conseiller culturel à l'ambassade de France à Varsovie et auteur de cet ouvrage La fin de l'innocence, paru chez Autrement en février 2009, pour lequel il était venu déjà à ce micro.
Alors, devant de votre livre, Yannick Enel, j'arrive tout de suite à la page 178-179. Vous dites, à propos du film de Lanzmann, Shoah, que chacun connaît, que Claude Lanzmann n'a gardé que 40 minutes de l'entretien que Karski lui avait accordé. Et le film ne faisait aucune mention des efforts, il parle à la première personne parce que vous donnez donc la deuxième partie de la parole à Karski, le film ne faisait aucune mention de mes efforts pour sauver les Juifs, ce qui changeait complètement le sens de mon intervention. Claude Lanzmann n'en avait gardé que le récit de ma visite dans le ghetto, rien sur mes tentatives pour transmettre le message des Juifs aux Alliés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je pense que Claude Lanzmann, quand il filme Jan Karski pendant 8 heures, et qu'il n'en garde que 40 minutes, il a besoin de témoignages directs sur ce qui se passait, en l'occurrence, dans le ghetto de Varsovie. Donc il ne garde cette partie que pour l'économie, je dirais, cinématographique, enfin, pour l'économie de son film. Après, c'est vrai que ça devient gênant, et je sais que Jan Karski, à plusieurs reprises, s'est interrogé, effectivement, sur le sens du film, même s'il a beaucoup soutenu le film de Lanzmann, il a accompagné Lanzmann jusqu'à Jérusalem pour le présenter. Mais c'est vrai que ça change beaucoup le sens du film concernant la question polonaise. Parce que c'est un film qui, comme on le sait tous, a été très, très mal vécu par les Polonais, qui donne une image, disons, de la Pologne qui est parfois à sens unique.
Alors pourquoi est-ce que Jan Karski pourrait changer l'image de la Pologne pour nos auditeurs ? Il faut rappeler qu'il est donc, c'est un homme éduqué qui est appelé sous les drapeaux comme officier. Il est polonais, donc il est catholique. Et c'est lui qui va être chargé de ce message par les deux hommes qu'il rencontre avant de partir pour Londres. Ces deux hommes qui sont des responsables du ghetto de Varsovie qui lui disent il faut dire au monde que les Juifs sont en train d'être exterminés. Donc c'est un homme polonais catholique qui se charge de cette mission.
Mais c'est vrai que la présence de Jan Karski dans le film Shoah de Lanzmann est très importante parce qu'elle montre qu'on ne peut pas réduire la Pologne à ce qu'elle a d'éventuellement antisémite. À tout l'antisémitisme polonais, n'est pas la vérité de la Pologne. Jan Karski, par sa simple présence, en témoigne.
Georges Bensoussan.
Oui, je serais d'accord avec Yannick Hennel pour dire qu'on ne peut pas réduire la Pologne à l'antisémitisme, mais la Pologne a été massivement antisémite et massivement meurtrière. Je crois qu'on a tort de faire de la Pologne un bloc, là-dessus on se rejoint. Mmh. Il y a eu des élites polonaises, dont Jan Karski fait partie, précisément, qui ont été horrifiées par l'antisémitisme avant-guerre et après-guerre. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'après-guerre, on a tué plus de juifs en Pologne qu'avant la guerre. Je ne parle pas évidemment des cinq années du nazisme, de l'occupation nazie. Autrement dit, non seulement la Shoah n'a pas vacciné les Polonais d'antisémitisme, elle les a encouragés à tuer encore plus de juifs. Mais, dans cette débauche de meurtres, 1500 assassinats en un an dans des conditions atroces de sadisme, les élites polonaises, la bourgeoisie polonaise, la bourgeoisie cultivée, a été totalement horrifiée par ce qui se passait. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a deux Polognes. D'une certaine façon, vous parlez de la Pologne de l'élite avec Karski, mais malheureusement, la Pologne populaire, celle qui l'a emportée, celle-là est massivement complice de l'assassinat, dans tous les domaines, par le biais des dénonciations, par le biais de la chasse aux fuyards, par ceux qui ont été remis à la Gestapo, par ceux qui ont été tués à coups de hache et de fourche quand ils arrivaient à s'enfuir hors des ghettos. Sur ce plan-là, on ne peut pas nuancer malheureusement l'antisémitisme polonais. En revanche, ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas une Pologne. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'un mot encore concernant le film de Lanzmann. Il a filmé 350 heures, il en a gardé 9h30. Il est indéniable qu'il devait faire un choix. Le cœur du film de Lanzmann, c'est la destruction. Pas les efforts pour faire connaître la destruction. Et d'ailleurs, si le message de Karski pour faire connaître les efforts de la destruction est absent, c'est vrai. Le message de Gerhard Rigner, oui, le responsable du Congrès juif mondial à Genève, est aussi absent. Donc vous voyez qu'il a écarté un grand nombre de témoignages qui vont dans le même sens.
Enfin, reste que pendant longtemps, l'existence même de Jan Karski était absolument inconnue. D'ailleurs, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont découvert avec le livre de Yannick Hennel son existence. Et que donc, cette mission dont le gouvernement polonais en exil avait chargé et la résistance intérieure polonaise qui avait été organisée, cet état clandestin, puisque le livre de Jan Karski, il ne comporte qu'un chapitre consacré à sa mission à Londres concernant le sort des Juifs polonais. Le reste de son livre est consacré à décrire dans le détail l'État polonais clandestin qui, malgré l'occupation et sa férocité, 6 millions de morts, est arrivé à tenir le pays pendant les six ans d'occupation. D'un côté, on peut dire, comme le dit Georges Bensoussan, qu'à travers la personnalité de Jan Karski, on dissimule l'antisémitisme massif qui pouvait exister dans une partie de la population polonaise. En n'en parlant pas, on pouvait soupçonner de poursuivre un objectif inverse, qui était d'insister sur la partie antisémite et pas sur les efforts faits par la résistance elle-même pour tenter de faire savoir aux alliés ce qui se passait dans leur pays. Jean-Yves Potel, vous penchez vers quelle thèse ?
Non, je ne vais pas parler en termes de pencher par telle ou telle thèse. Je crois que, effectivement...
Restez au centre, alors.
Oui, non, je ne reste pas au centre. Effectivement, il y a plusieurs Pologne. La Pologne est un pays pluraliste, comme tous les pays. Et il y a différentes positions, mais... Je crois que ce qui est très important, c'est que la résistance polonaise, c'est-à-dire l'AK, l'armée Krajowa, qui était ce qu'on a appelé l'État clandestin,
l'armée de l'intérieur,
Karski était un émissaire de l'AK. Ce n'était pas quelqu'un qui était... Et d'ailleurs, je voudrais simplement préciser une chose, sa mission ne consistait pas simplement à parler du sort des Juifs. Il a fait un tableau de la résistance polonaise. Donc, il y avait un effort de la part. Et je crois que ce qui est très important, c'est que la résistance polonaise, et notamment en s'appuyant sur les réseaux, y compris les organisations juives en Pologne. Je pense que, par exemple, beaucoup de choses de ce que ramenait Karski venait également des travaux de toute l'équipe autour de Regenbloom dans le ghetto de Varsovie. Ce travail-là, il y a eu un travail d'information très important qui a été fait à partir, disons, de 1942. Et c'est arrivé à partir de mi-1942. Les Polonais ont publié récemment, republié en facsimilé, le journal des communes en novembre 1942. En anglais, il y a des rapports, vous avez une description de Belzec et aujourd'hui, on n'y ajoute pas un mot. Et tout est en détail. Et c'est en 1942. Donc, je crois que ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est vrai que dans la société polonaise, il y a eu un accueil, il y a eu des comportements dont a parlé Georges Bensoussan, mais je crois qu'il ne faut pas oublier en même temps que la guerre a été terriblement violente pour la population polonaise aussi. Il y a eu plus de 2 millions de Polonais qui ont été déportés, par exemple en Allemagne pour le travail obligatoire. Il y a eu des gens qui ont été tués dans les camps. On considère en général aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 millions, 2,5 millions de Polonais qui ont été tués, non, de Polonais non juifs. Donc la violence de l'occupation allemande était tout à fait... Ça n'excuse rien, mais je pense qu'il faut le mettre dans le contexte. Alors, sur le livre de Yannick Hennel, je crois ce qui est très important dans ce livre, et ça a été dit, mais c'est justement de remettre au centre le message de Karski. Le livre de Karski a d'ailleurs, enfin, son livre a eu un grand succès après la guerre aux États-Unis. Et il était son
en
livre,
France, vous me l'accorderez. Hein.
Oui, et en France, je sais qu'aussi en France, c'est-à-dire son livre, il gagnerait à être republié. Il a été republié récemment par une petite maison d'édition, alors qu'il se lit de façon très bien. C'est un véritable roman. Je pense que Yannick Hennel ne sera pas en désaccord avec moi. Ça se lit très, très bien. Et je pense que ça serait bien de le publier comme document. Mais... ou de le republier, de mettre dans un livre de poche, ou je ne sais. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y avait ce message qui était porté par Karski et par la résistance polonaise. Alors après, il y a une discussion. Moi, j'ai beaucoup aimé le rôle que joue ce livre. Les deux premières parties me paraissent absolument...
Alors, le livre de Yannick Hennel.
Yannick Hennel. Et j'ai entendu des journalistes découvrir Karski, j'en suis ravi. C'est très important, il faut parler de Karski, c'est très bien. Et merci de parler de Karski. Je pense que vous avez fait un excellent résumé et une très bonne présentation, dans les deux premiers chapitres, c'est vraiment très beau. Il y a une grande empathie, c'est très fort. Je pense que ça, pour un lecteur, c'est très important. La troisième partie, qui est un peu l'objet de notre discussion, que je ne rejette pas, mais vis-à-vis desquelles j'ai plus de réserves.
Alors, qui est un dispositif plus fictionnel, enfin fictionnel.
Plus fictionnel, hein, alors justement, c'est ça.
La première personne, c'est Yann Karski qui...
Oui, il fait parler Yann Karski. Alors, il parle au nom de Yann Karski. Alors, je crois que des fois, il lui fait dire des choses qui sont un peu excessives. Par exemple, je crois que, grosso modo, on va en discuter, mais la thèse comme quoi... C'est-à-dire qu'il fallait agir beaucoup plus ou bombarder Auschwitz ou des choses comme ça. Ce n'était pas la thèse explicite de Karski. Karski a toujours dit qu'il était un témoin, un passeur, et il n'a jamais... Et par exemple, la façon dont on est présenté dans ce débat, dans ce texte, la rencontre avec Roosevelt est, à mon avis, totalement caricaturale. Parce que Roosevelt... Et ça, c'est le point sur lequel je suis le plus en désaccord.
Yannick Hennel, vous faites bailler Roosevelt pendant...
Regardez les jambes de sa secrétaire, voilà. Et ne pas s'intéresser aux Juifs. Karski lui-même l'a raconté, cette rencontre. Il ne la raconte pas du tout comme ça. Et lui-même a dit, dans plusieurs interviews, on lui a dit « Pourquoi vous n'avez pas demandé à Roosevelt d'agir militairement ?» Il dit « Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas et je ne pouvais pas. » Et quand vous avez revu, moi j'ai revu justement pour cette émission, le passage de Shoah, quand vous voyez l'homme que c'était. Et vous voyez, moi, je trouve ça difficile de parler à sa place. Mais ça, c'est un point de vue, une nuance que je donnerai sur votre livre.
Yannick Hennel, pourquoi vous décrivez cette rencontre comme ça? Effectivement, avec un Roosevelt bâillant, regardant les jambes de sa secrétaire et ne cessant de dire « je comprends », au fur et à mesure, dites-vous qu'il refuse la compréhension.
Mais d'abord, pour répondre à votre question, il faut que je dise que je répète que c'est de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'histoire, pour moi, devient muette sur certains points, sur certaines zones de l'être. Donc, je parle pas au nom de Yann Karski, mais je me permets l'audace d'essayer d'avoir des intuitions sur ce que Karski peut penser, puisqu'il y a un moment où on ne sait plus, au fond. À partir de 1945, il n'y a rien, il n'y a pas de documentation sur le silence de Yann Karski. Yann Karski se tait pendant 35 ans. Donc voilà, c'est un pari, c'est assumé en tant que tel, c'est dit dans le livre que là, c'est de la fiction. Alors effectivement, moi, à la violence de l'histoire avec un grand H, j'oppose l'ironie de la littérature. Vous avez très bien dit, M. Potel, qu'effectivement, face à Roosevelt, historiquement, donc Karski s'est senti impuissant. Il s'est senti impuissant parce qu'il a senti l'impuissance de Roosevelt. Moi, je pense que quelqu'un comme Karski, qui à mon sens est un héros au fond, ne peut pas supporter cette impuissance. J'imagine, et j'assume cette imagination, j'imagine que Karski, quand il décrit réellement sa rencontre avec Roosevelt, est pris dans un réseau de diplomatie, ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé. Il y a également le texte de l'ambassadeur polonais qui est là avec Karski à l'époque. Ce sont des textes très très sages, parce que évidemment en tant que polonais, ils ne peuvent pas se brouiller avec l'Amérique à ce moment-là, on est en 43. Moi je pense, et c'est de la satire, je réfute le mot caricature, je dirais que c'est de la satire. Je pense qu'effectivement, pour faire entendre à un lecteur aujourd'hui en 2009, cette situation mais inextricable, horrible, de Karski venant parler des Juifs du ghetto de Varsovie à un président qui est ligoté pour des raisons dont on va sans doute parler, j'ai effectivement été excessif et je fais Roosevelt bâiller. Enfin, je décris un bâillement.
Alors Georges Pensoussan, chez les historiens qui sont occupés de cette passivité des alliés face à la Shoah, je relève au moins deux écoles, vous me direz si je me trompe, et j'en ajouterai moi-même une troisième. Il y a ceux qui disent, comme Henry Feingold, par exemple, étudiant le département d'État américain, qu'il y avait un véritable antisémitisme chez certains bureaucrates américains, et ils citent notamment le cas de Breckinridge Long, qui était l'assistant secrétaire d'État et qui était chef de la division des problèmes de guerre spéciaux, et que ceux qui n'étaient pas antisémites en tous les cas ne voulaient pas manifester un traitement spécial des problèmes juifs dont ils pensaient, peut-être non sans raison dans certains pays d'Europe centrale, parce que la Pologne n'est pas le seul pays touché par l'antisémitisme, pas encore de la Roumanie et de la Hongrie, qu'un traitement spécial des juifs aurait un effet désastreux sur les populations locales qui se diraient « et pourquoi pas nous ?». Mais il y a une autre école qui m'intéresse, c'est celle de Bernard Wasserstein, qui a étudié dans « Britain and the Jews of Europe » la passivité de Churchill et des Anglais, qui dit lui qu'il y avait un problème cognitif, à savoir qu'il ne pouvait pas comprendre, et c'est un petit peu la thèse que reprend Hennel dans son livre, que les Anglais tellement civilisés ne pouvaient pas comprendre le caractère incommensurable, radicalement nouveau, énorme, du massacre d'une population entière par des procédés industriels. Moi, j'en ai une troisième que je vous soumets et je sais qu'elle va vous choquer. Est-ce que c'est pas, et c'est ce que disait à l'instant Yannick Hennel qui me pousse dans ce sens-là, les Polonais, à l'époque, risquaient de troubler un jeu diplomatique dangereux, qui était celui que les Anglais et les Américains donc avaient noué avec Staline. Staline ne voulait pas de la Pologne dans son jeu parce qu'il avait, il l'avait partagé avec Hitler en septembre 39, qu'il ne voulait pas de sa renaissance. Et il était commode pour se débarrasser de l'allié polonais, quatrième combattant en 1945. La quatrième force combattante par le nombre, c'était les soldats polonais, ce qu'on oublie toujours ici, malgré le caractère terrifiant de l'occupation sur place qui a coûté la vie à 6 millions de Polonais, 3 millions de Juifs et 3 millions qui ne l'étaient pas. Est-ce que Novak, est-ce que Karski, étant des gens envoyés par les plus hautes autorités clandestines de la Pologne combattante, ne gênaient pas une certaine image d'antisémitisme qu'il s'agissait de coller à la Pologne pour la laisser tomber? Parce que c'est ce que dit Novak aussi, il y avait besoin d'un prétexte pour abandonner la Pologne puisque Staline exigeait qu'on la sacrifie. Eh bien, en faire une bande d'antisémites, ça la rendait pas très populaire. Qu'en dites-vous?
Alors,
ma troisième thèse.
Alors ça fait beaucoup de questions. Oui. Ça fait beaucoup de remarques et ça suppose forcément du temps pour répondre. Les raisons du silence des alliés sont complexes. La première que je récuse absolument, c'est l'idée qu'ils ne pouvaient pas connaître. Pourquoi ? Parce que Churchill, qui est au courant des massacres commis par les Einsatzgruppen dès juillet-août 1941, prononce à la BBC le 21 août 1941 cette phrase extraordinaire « Nous sommes en présence d'un crime qui n'a pas de nom ». Il est d'emblée conscient de l'immensité du désastre et qu'on est en présence d'un génocide, pire encore que ce qui s'est passé avec les Arméniens. En réalité, je reprends certaines de vos thèses. Oui, il y a au département d'État américain, comme au Foreign Office britannique, une couche antisémite, une élite antisémite, violemment antisémite, qui n'entend pas faire de place particulière aux Juifs et qui est même fondamentalement hostile aux Juifs. Mais il y a un autre élément. C'est que, en dehors du fait qu'effectivement, la Pologne risquait de troubler le jeu avec Staline. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Il y a un autre élément. C'est que, sur le fond, s'il s'agissait de prendre en main les Juifs plus particulièrement, ça laissait prise à la propagande nazie qui consistait à dire que la guerre, c'était la guerre des Juifs. N'oublions pas non plus qu'aux États-Unis avant 1941, le New Deal américain était présenté comme le Due Deal par la droite américaine et qu'il y a toute une droite et une extrême droite américaine, représentée entre autres par le père Laughlin et par Charles Lindbergh, qui est violemment antisémite. Mais il y a un autre problème encore derrière, c'est celui des réfugiés. Si on prend en compte les Juifs, il faut admettre qu'il faut les accueillir sur le sol américain ou sur le sol britannique. C'est un premier point et on n'en veut pas. Et on n'en veut pas, entre autres, par tradition antisémite. On a tort de négliger la dimension antisémite qui va jusqu'au plus haut du département
d'État.
Et
on craint les espions allemands, les espions nazis qui seraient réfugiés à l'intérieur.
Et je pense au général Marshall qui va jouer un rôle néfaste vis-à-vis, par exemple, de la création d'État d'Israël jusqu'en 1948. Mais il y a un deuxième élément. C'est l'élément anglais. Si les Anglais admettent la spécificité de ce qui arrive aux Juifs, ils sont obligés d'ouvrir les portes de la Palestine. En ouvrant les portes de la Palestine, ils se mettent le monde arabe à dos. Et ça, ils n'en veulent pas parce qu'ils sont présents du Caire à Bagdad. Ils ont des intérêts considérables dans la région, les Américains aussi avec l'Aramco en Arabie Saoudite. Il n'est pas question de fâcher le monde arabe. Autrement dit, c'est la paix avec les Arabes va s'acheter sur le dos des Juifs. C'est là-dessus. C'est sur cela qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte. Pardon. Maintenant, il y a d'autres éléments sur lesquels je voudrais revenir. Jean-Yves Potel, Yannick Hennel en ont parlé, mais deux mots. Les Polonais, Jean-Yves Potel, vous avez raison de le dire, ont souffert le martyr. Il y a 2 millions de victimes polonaises.
Moi, j'en connais 3, mais chacun ses chiffres.
Non, aujourd'hui, c'est des chiffres récents.
C'est 2 millions.
2 millions, 2 millions.
On est d'accord avec Jean-Yves, c'est plutôt 2 millions. Bon, enfin, ne pinaillons pas sur les chiffres, on est dans l'horreur absolue. Les Polonais, on est d'accord, Jean-Yves, n'ont pas été victimes d'un génocide.
Non, non, bien sûr.
Et il suffit de voir pour ça le pourcentage des enfants, ce qui distingue la souffrance juive de la souffrance polonaise. Et il ne s'agit pas pour cela, pour autant, de faire une échelle de l'horreur. C'est que la jeunesse juive a été massacrée systématiquement. C'est le propre d'un génocide, pas la jeunesse polonaise.
Bien sûr.
Ça, c'est le
c'est l'intelligentsia qui était visée chez les Polonais.
Absolument. C'est l'intelligentsia d'abord, tant par les Soviétiques d'ailleurs, Katyn,
oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, il n'y a
pas
de.
Allemands. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même obligé de revenir à l'un des points centraux de ce qui reste une fiction chez Yannick Enel. Yannick Enel est romancier, on est d'accord, il n'est pas historien, même s'il s'introduit sur le territoire de l'historien, donc il ne faut pas s'étonner de recevoir de temps en temps quelques coups du milieu des historiens.
Je les accepte.
C'est comme Little avec les bienveillantes, sauf que je ne mets pas du tout votre livre sur le même plan, je suis bien au contraire convaincu, comme vous l'avez dit dans Le Monde récemment, que c'est l'anti-bienveillante votre livre. Bon. Mais on est bien obligé de recentrer sur l'idée. Un, la responsabilité polonaise dans le massacre. Et deux, oui ou non, les alliés ont-ils noirci le rôle de la Pologne pour mieux se blanchir eux-mêmes? Alors, sur la Pologne, quand même un mot, je ne veux pas abuser du micro. L'aide de la résistance polonaise à la résistance juive, disons-le en un mot, parce qu'on n'a pas le temps dans une émission de courte durée. Nul. Nul et non avenu. Nul. Jusqu'au soulèvement du ghetto de Varsovie, la résistance polonaise, qui disposait de plus de 30 000 revolvers et de 20 000 fusils mitrailleurs, a livré 10 revolvers à la résistance juive. 10 revolvers payés rubis sur l'ongle, pas donnés. Ça, ça s'appelle un abandon absolu. C'est pas la peine de biaiser avec les mots.
Je crois que on pourra discuter. Je crois que c'est l'objet d'une grande discussion. Il y a un livre qui vient de paraître en Pologne sur les Juifs, et la résistance polonaise, qui était fait par les meilleurs historiens, qui nuance ça. Mais je suis d'accord sur le fond, sur le fait que l'aide militaire de l'AK a été trop faible. Je suis d'accord sur cette constatation de fond. Sur les faits, je crois que c'est plus compliqué. Mais enfin, c'est un autre débat. On ne va pas discuter ici. Deuxièmement, je crois que je suis d'accord aussi sur le fait que l'idée qu'ils ne savaient pas est absurde. Vous venez de rappeler Churchill. Il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a beaucoup de témoins, de choses qui sont passées. Mais je crois qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, parce que même Karski l'a rencontré lui-même, c'est qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas y croire. Ça, c'est autre chose. Qui ne voulaient pas y croire. Bon, on connaît comment ça se passait dans les communautés juives elles-mêmes. Je vous rappelle ce fameux émissaire dont parle Elie Wiesel dans La Nuit, qui revient, qui s'est échappé de Treblinka, je crois, et qui raconte aux juifs qui ne croient pas et qui le prennent pour un fou. Mais lui-même raconte, dans une interview qu'il a donnée en 1995, que j'ai amenée ici, où justement Karski raconte, répond à toute une série de questions, et il parle d'un haut fonctionnaire américain qui s'appelle Frankfurter, et qui était un juif, auquel il raconte tout. Et le fonctionnaire lui dit « Mais je ne peux pas vous croire ». Mais l'autre lui dit « Mais vous pensez que je mens ?» Il dit « Non, vous ne mentez pas, mais je ne peux pas vous croire, ce n'est pas possible ». Et il est passé à autre chose.
Ce que disait Raymond Aron. Je ne croyais pas aux chambres à gaz, disait-il quand il était à Londres, parce que je ne pouvais pas y croire.
Absolument. Et ça, je crois que c'est un point qu'a joué, peut-être pas dans la décision, mais il y a eu quand même aussi des discussions. Bon, je pense là, peut-être, Georges pourrait raconter en plus en détail, mais il y a eu des discussions assez détaillées à la fin de la guerre, notamment au moment de déportation des Juifs hongrois et au moment de sur l'idée de bombarder. Il y a même eu de bombarder Auschwitz ou des voies ferrées. Ça a même été discuté concrètement. À certains moments, on l'a même préparé, puis on l'a plus fait. Les experts en bombardement, ce que je ne suis pas, disent que c'était pas forcément possible, que c'était très difficile. Mais il y a eu des discussions concrètes. Mais c'est dans un autre contexte et c'est à la fin, c'est-à-dire ça aurait pu sauver les Juifs hongrois.
Il y a eu des discussions concrètes aussi sur le plan tactique des bombardements et du mitraillage pour empêcher, par exemple, quand les Allemands ont vidé les camps d'extermination et de concentration face à l'avancée des troupes soviétiques, pour en expulser les occupants.
Les marges de la mort.
Les marges de la mort. Et ces marges de la mort auraient pu être empêchées.
Oui,
là-dessus, il y a guère de doute. Non, rien n'a été tenté. Des centaines de milliers d'hommes à moitié morts étaient sur les routes, massacrés par les SS quand ils avaient le malheur de s'effondrer de fatigue, et les Alliés n'ont rien fait pour empêcher.
Moi, je vous résumerai la situation avec la manière de Karski. Karski, il fait une seule constatation. Il dit il y a un seul fait qui est incontestable. C'est que les Juifs ont été assassinés. Il y a des gens qui les ont aidés. Mais aucun gouvernement n'a aidé les Juifs. Et les seuls qui ont aidé les Juifs, c'est des individus et des petites associations, des gens comme ça. C'est-à-dire de la société civile, comme on dirait aujourd'hui. Mais aucun gouvernement. Pour des raisons géopolitiques qu'a très bien résumé Georges. Mais je pense que c'est ça le fait qu'il faut constater et qui, aujourd'hui, nous pose, à mon avis, une question à la fois politique et surtout morale sur cette responsabilité-là.
Alors, Yannick Hennel, vous êtes romancier. Pour vous, le poids des mots est fort. Vous parlez de l'intransmissible. C'est un mot que vous utilisez pour parler de cette mission Karski, cet homme qui a vu, parce que c'est très rare quand même de prendre le risque d'aller dans un camp d'extermination pour aller voir sur place ce qui s'y passe réellement. Il y a très, très, très peu de Polonais qui peuvent se vanter d'avoir...
Je pourrais faire une rectificative, oui. Parce que sur Belzec, il y a un point important, et lui-même l'a pas rectifié dans son livre. Karski n'est pas allé à Belzec, il est allé à Izbica. Il est allé à Izbica, qui ne s'appelle pas Izbica Lubelski, mais qui s'appelle Izbica. C'est un endroit qui existe, qui était un shtetl, qui avait été transformé en ghetto de transit par les nazis pour Belzec. Et lui-même, Karski, est retourné en 96 en Pologne. Et je connais très bien les gens qui l'ont accueilli, j'ai parlé longuement de ça avec eux. Quand il est allé là-bas, il est d'abord allé à Belzec, il n'a rien reconnu.
Donc ce n'était pas là qu'il avait été.
Et quand il est allé à Izbica, où on va régulièrement, parce que j'y vais avec le mémorial de la Shoah, on fait des formations, on va tous les ans à Izbica, et immédiatement, Karski a reconnu. Donc il a vu ce camp de transit, ce qui n'enlève rien. Mais là-dessus, l'affaire est très claire maintenant. Non,
Sur le mot intransmissible, quand Yannick Hennel vous employait dans votre roman Yann Karski le mot intransmissible, est-ce que précisément vous ne faites pas de la Shoah un événement hors de la portée de l'expression humaine? Est-ce que vous ne concourez pas de cette manière à expliquer, à décharger de leurs responsabilités les dirigeants occidentaux qui, face au témoignage de Yann Karski et de quelques autres, ont refusé de prendre quelques moyens que ce soit, parce que je crois que ça a été établi assez clairement autour de cette table, pour empêcher, c'était peut-être pas possible, mais limiter, mais faire en sorte que ce crime n'ait pas lieu, parce que, encore une fois, Karski était porteur d'un message des deux dirigeants du Bund et sioniste du ghetto de Varsovie qui leur avait demandé des choses extravagantes, mais enfin, qui avait demandé de faire quelque chose. Avec ce mot intransmissible, est-ce que quelque part vous justifiez pas la passivité des Anglais et des Américains? Puisque c'est intransmissible, ils ne pouvaient pas le comprendre, ils n'ont rien fait.
Je suis étonné que vous attiriez l'attention sur cet adjectif qui est vraiment... mon livre dit tout le contraire. Je suis même très attaqué de partout parce que je n'arrête pas finalement de faire dire à Yann Karski que les alliés sont non seulement passifs sur cette question, mais peut-être même complices. On me dit, je suis attaqué dans des blogs historiques notamment, on me dit, mais comment ça, quelle violence au fond, vous êtes de quelle idéologie, enfin, cette question pour moi fondamentale de la passivité des alliés concernant l'extermination des Juifs d'Europe, j'ai l'impression que non seulement elle n'est pas réglée du point de vue des archives, j'attends ce que vont dire... Messieurs Potel et Ben Soussan, mais j'ai l'impression non seulement qu'elle n'est pas réglée, mais qu'elle est fondamentale pour aujourd'hui. Au contraire, je ne pense pas que le message de Karski était intransmissible. Je pense qu'il y a un problème de transmission, mais que précisément cette transmission a été arrêtée par les Alliés. Elle a été reprise par Claude Lanzmann, et très modestement, je la remets avec tout le travail des historiens qui n'ont cessé de travailler sur ces questions-là. Moi, très modestement, dans le registre de la littérature, j'essaye de faire en sorte qu'on se repose la question de la responsabilité. Je pense que Karski, à un moment, s'est demandé par culpabilité, par cette élégance incroyable qu'il a eue de se sentir coupable, alors que tout le monde était coupable sauf lui sur cette question. Il s'est demandé si son message n'était pas intransmissible. Mais de fait, la question de la passivité des alliés est fondamentale.
Là, vous soulevez un problème qui est justement un des problèmes qui est au cœur des discussions qu'il y a, par exemple, aujourd'hui en Pologne,
oui, exactement,
qui est celui de la responsabilité, ce qu'ils disent en Pologne, du témoin, c'est-à-dire, puisque les Polonais ont vu la Shoah d'une certaine manière, pas dans les camps, mais ils ont vu, il y a eu beaucoup d'exécutions qui ont eu lieu dans les villages, et ils ont vu beaucoup de choses, et donc c'est la responsabilité du témoin, qui est un grand thème aujourd'hui, qui était discuté actuellement en Pologne, et dans lequel, à la fois les autorités publiques Et les associations considèrent aujourd'hui, les historiens, qu'il y a une co-responsabilité, parce qu'il y a une responsabilité en tant que témoin, morale et politique. Pas, bon, il y en a qui ont fait des meurtres, mais ce n'est pas quand même la grande majorité. Mais ça, c'est, et je pense que la responsabilité des alliés vis-à-vis, ce que je disais tout à l'heure sur la question de responsabilité morale, je crois que vous avez raison de soulever ce problème, parce que je crois que c'est un des problèmes d'aujourd'hui, sur, même si probablement il était très difficile d'intervenir. Alors, simplement un point. La responsabilité de l'Église catholique, par exemple, à mon avis, est très importante. Et je pense que vous l'avez peu abordé, mais par exemple, autant la résistance polonaise a fait passer beaucoup d'informations, autant le pape et les évêques, notamment le grand évêque Sapieha, qui était en Pologne et qui savait tout, n'a quasiment, on a vu ses lettres à peu près, il n'a quasiment rien envoyé au pape. Et il parlait beaucoup des Polonais et autres, mais il y avait très peu de choses sur les Juifs. Et donc ça, je crois que ça c'est aussi... Il y a un débat aujourd'hui, par exemple, très fort en Pologne sur la responsabilité de l'Église. Non pas qu'il y a beaucoup de prêtres qui ont aidé, qui ont fait des choses formidables, qui sont des héros, mais le fait de condamner moralement ce meurtre... Et donc le rôle du Pie XII, etc. Bon, enfin,
le rôle de l'Église et le rôle des alliés. Je voudrais vous interroger, Georges Bensoussan, aussi sur cette question, parce que ce qui est intéressant, c'est que Yannick Haenel dépouille les alliés de leur héroïsme glorieux, quand même. Okay. On a été élevé avec une histoire, quand même, de l'après-45, où c'était la victoire des alliés et du monde libre. Yannick Haenel dit « Un monde qui a fait ce qu'il a fait ne peut pas se sentir libre. Ce monde qui n'a pas été au secours des Juifs ne peut pas être un monde libre. La statue de la liberté ment », fait-il dire à Yannick Karski.
Je laisserai de côté le pape parce que ça nous entraînerait une émission qui durait toute la nuit.
On pense à une émission sur ce sujet-là depuis longtemps avec
Julie. Mais je pense que Jean-Yves Potel touche du doigt quelque chose d'essentiel, mais il faudrait plusieurs émissions. Et là où Yannick Haenel touche juste et très fort, je vais citer deux de ses phrases dans son livre, c'est « Peut-être, écrit-il, ne fallait-il pas que les Juifs d'Europe puissent être sauvés ?» Puis, 12 pages plus loin, « Il n'était dans l'intérêt de personne de sauver les Juifs d'Europe. » C'est exactement la même chose. À cette question, à cette affirmation extrêmement violente que vous faites, qu'est-ce que répond l'historien ? Je pense que Jean-Yves Potel ne sera pas forcément en désaccord avec moi. C'est que vous avez raison.
Ah non, je suis d'accord.
Je crois qu'il était dans l'intérêt d'un grand nombre d'Européens de se débarrasser de la question juive. Et ça explique très largement le silence des alliés. Alors vous m'avez posé la question sur ces alliés héroïques qui n'ont rien fait. Je reprends le problème du bombardement des voies ferrées. Le 7 avril 1944, parce qu'on ne peut pas faire d'histoire si on n'est pas extrêmement pointu sur la chronologie. Le 7 avril 1944, les Américains photographient à Auschwitz trois Monowitz, à 7 km des chambres à gaz. Le 15 mai 1944 commence la déportation des Juifs hongrois, 400 000 morts en quelques semaines. Ils avaient les moyens de bombarder les voies ferrées, les chambres à gaz, les crématoires. Or, je rappelle que l'argument selon lequel bombarder les crématoires aurait fait des victimes se passe de commentaires tellement c'est cocasse. Je rappelle simplement que ces fameux crématoires, 2, 3, 4 et 5, qui ont été responsables de pratiquement 700 000 morts à Auschwitz, ont mis 9 mois à être construit par les nazis. Autrement dit, le bombardement des crématoires dans ce qui était en 1944 la dernière usine de mort, on est d'accord, Jean-Yves, Sobibor, Belzec, Treblinka étaient déjà fermés en 1944, aurait énormément retardé le génocide et donc permis de gagner du temps pour sauver un maximum de vies humaines. Et là-dessus, je pense que Yannick Haenel, en romancier tout juste, il a une intuition fondamentale. Oui, d'une certaine façon, les Allemands ont fait le sale boulot dont rêvait une partie de l'Europe. Et j'ajoute, on est obligé, malheureusement, de le reconnaître. Et Lanzmann l'a mis en avant dans son film, ce qui a beaucoup déplu en Pologne. Les Polonais, quelle que soit leur obédience, d'une certaine façon, étaient soulagés que les Allemands aient fait le sale travail, y compris au sein du Parti socialiste polonais, à des degrés divers, bien sûr, mais au sein de l'Arma Krajowa, et encore plus du côté des éléments fascisants polonais, il y avait une satisfaction à voir, dans le fond, que ces Allemands, qui étaient des monstres, des bourreaux, d'immondes persécuteurs et d'immondes oppresseurs, rendaient service, malgré tout, à la Pologne, en débarrassant la Pologne de ce vieux problème juif qu'elle traînait depuis des décennies et des décennies.
Alors je remets cela.
Je voudrais ajouter un mot. Je ne voudrais pas, ici, être le procureur de la Pologne, mais dire aussi qu'il y a eu 4500 justes en Pologne, qu'il n'y a eu que 200 en Roumanie, et 4500 justes en Pologne qui ont aidé des Juifs à titre individuel dans les conditions que l'on sait en Pologne, à savoir que quiconque aidait un Juif était soumis à la mort lui aussi, c'est exceptionnel.
Famille. Quelquefois, l'immeuble entier.
On ne peut pas l'oublier.
Alors, je vais remettre de l'huile sur le feu, Georges Bensoussan, en vous citant un fait. C'est sur la concurrence des mémoires entre Juifs et Polonais. En 1994, le président fédéral de l'Allemagne réunifiée, donc Roman Herzog, est invité par le gouvernement polonais aux manifestations marquant l'anniversaire du 50e anniversaire de l'insurrection de Varsovie. Je rappelle, l'insurrection de Varsovie, ça a duré tout le mois d'août et de septembre et au début du mois d'octobre. Ça a fait 200 000 morts et une capitale entière de l'Europe a été entièrement détruite. Sa population survivante a été entièrement déportée. C'est un cas, là aussi, assez unique. Hein. Eisenhower disait, en allant sur place, j'avais vu faire la guerre à des vivants, j'avais pas encore vu faire la guerre à des pierres. Car voilà une capitale qui a été entièrement dynamitée après que ses populations aient été expulsées. Réponse de la présidente allemande à cette convocation, à cette invitation. Je cite, c'est bien volontiers que je me rendrai aux cérémonies célébrant le souvenir de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Autrement dit, le président allemand ignorait l'existence de l'insurrection de Varsovie qui a fait 200 000 morts. Il ne connaissait que l'insurrection du ghetto. Quand je regarde le magnifique film qui est passé sur France 2 ces dernières semaines, très beau et je trouve rien à redire, sauf cela, sauf qu'il y a quelques minutes consacrées à l'insurrection du ghetto. D'après Marek Edelman, c'était quelques centaines de combattants armés, vous l'avez dit vous-même, de quelques revolvers qui rééditaient le Masada, c'est-à-dire mourir les armes à la main pour montrer la dignité humaine, mais sur le plan militaire, on ne peut pas dire que c'était un événement de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, l'insurrection de Varsovie, 200 000 morts polonais, une vingtaine de milliers du côté des Allemands, et ce n'était pas n'importe quoi des divisions blindées de la SS, qui a duré deux mois. Là, dans le film Apocalypse, ça disparaît. Alors, on sait bien tout de même qu'il y a une concurrence des victimes et qu'il y a un conflit de mémoire. Et que la mémoire des deux insurrections n'occupe pas la même place dans nos mémoires collectives. Effectivement, qui connaît parmi nos auditeurs l'insurrection de Varsovie et qui, parmi vous, auditeurs, vient de découvrir qu'elle avait fait 200 000 morts ? Je pose la question.
Oui, enfin, juste un point, si je m'excuse, c'est que c'est vrai qu'il y a eu cette concurrence qui a été faite. C'est vrai qu'elle a été entretenue, en partie d'ailleurs par le fait que les communistes, pendant très longtemps, ne voulaient pas parler de l'insurrection de Varsovie, qui était considérée comme une insurrection. On a arrêté le NKVD a mis en prison beaucoup de responsables de cette insurrection.
Oui, car ces héros antinazis sont ensuite retrouvés en prison, emprisonnés par les communistes.
Donc ça a joué beaucoup et ça a fait qu'on a beaucoup... Bon, ça, c'est une première chose. Mais je crois qu'en même temps, on ne peut pas dire que les Polonais ont été, pendant l'insurrection de... Enfin, on ne peut pas faire confondre les deux insurrections. À mon avis, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Polonais les mettent en concurrence. Aujourd'hui, en Pologne, c'est je ne sais pas ce que va dire la radio française l'enterrement de Marek Edelman qui a lieu vendredi qui vient, mais ça va être un très grand événement à Varsovie. Et je peux vous dire que c'est un très grand événement.
Il n'était pas dans le Shoah non plus, Marek Edelman.
Non, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais bon,
bizarre aussi.
Bon, non, je pense que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a au contraire de la part des Polonais la recherche non plus de mettre les mémoires en concurrence, mais d'essayer de construire une mémoire commune. Ça ne marche pas toujours. Il y a encore des antisémites en Pologne.
Je ne vous parlais pas d'ici, en France.
En France,
du film Apocalypse, par exemple.
Oui, alors Apocalypse, juste un mot sur Apocalypse, ils ont quand même réussi deux choses. D'oublier l'insurrection de Varsovie et puis de donner Monte Cassino aux Français, alors que c'est les Polonais qui... Tout le monde sait que...
Enfin, tout le monde sait depuis Indigène, d'ailleurs, que ce n'est pas n'importe quel Français. On réécrit l'histoire aussi en fonction des besoins politiques du moment.
Yannick Enel, l'émission se termine. Juste, je voudrais revenir sur cette phrase que Georges Bensoussan a aussi soulignée dans une interview que vous avez donnée au Monde, enfin dans des propos de vous qui ont été rapportés par le Monde. Pourquoi vous avez dit ce livre, c'est l'anti-bienveillante ?
Oh, c'était pour répondre à une question qu'on me posait, parce que je pense que Les Bienveillantes, qui est un livre passionnant, c'est une opération de perversion. Enfin, il s'agit de fasciner par le mal. Moi, le mal ne me fascine pas. Enfin, je m'en passerai bien du mal. Les bourreaux ne me fascinent pas. Ce qui me fascine, ce sont les justes. Donc, Yann Karski est injuste. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour savoir ce que c'est qu'injuste.
Eh bien, on le recommande à nos auditeurs du Grain à Moudre. Yann Karski, il y a roman. Yann Karski, roman de Yannick Enel est paru dans la collection L'Infini chez Gallimard. Et c'est effectivement un excellent livre. Merci de vous avoir donné la réplique. Georges Bensoussan, historien, directeur de la revue du Mémorial de la Shoah. Et Jean-Yves Potel, politologue, ancien conseiller culturel de l'ambassade de France à Varsovie, auteur de La fin de l'innocence, qui est précisément consacré à l'attitude de l'opinion polonaise à l'égard des rapports judéo-polonais.